Chers auditeurs, dans quelques jours, vous pourrez découvrir une série inédite de La Loupe consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture, on s'est demandé comment réussir ces JO. Les transports sont-ils prêts à affronter les milliers de touristes? Le dispositif de sécurité est-il suffisant? L'enthousiasme sera-t-il finalement au rendez-vous? Pour répondre, on plonge durant 5 épisodes dans les archives des éditions précédentes, accompagnés des journalistes de l'Express. C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
C'est un accord historique.
Lors de son adoption à l'été 2022, une directive européenne avait fait beaucoup parler d'elle.
L'acte de décès des véhicules neufs à moteur thermique pour 2035.
L'interdiction de tous les véhicules thermiques, c'est l'objectif que s'est fixé l'Union européenne pour réduire ses émissions de carbone. Mais pas que. Ça doit aussi lui permettre de devenir moins dépendante du pétrole, qui, on le sait, est une ressource dont les stocks sont limités. Mais qu'en est-il de l'énergie électrique ? 63% de notre électricité provient de nos centrales nucléaires. Et ces centrales sont elles-mêmes dépendantes d'une ressource naturelle, l'uranium. Quand on y réfléchit bien, là non plus, les stocks mondiaux ne sont pas illimités. Et comme ces dernières années, l'énergie de l'atome redevient très populaire, un peu partout en Europe et dans le monde, la situation interroge. On peut ajouter qu'avec l'électrification des usages dans l'industrie, nos besoins énergétiques vont augmenter très rapidement. Alors, à l'avenir, aura-t-on suffisamment d'uranium pour les satisfaire ? C'est la question qu'on passe à la loupe dans cet épisode. À l'Express, nous avons un journaliste qui se passionne pour les questions énergétiques. C'est le rédacteur en chef adjoint de la rubrique Climat et Transition, Sébastien Julien. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Ma première question va peut-être sembler un peu bête, mais comment se forme l'uranium, Sébastien ?
C'est bien le problème. L'uranium, figure-toi, s'est formé au sein des étoiles il y a plusieurs milliards d'années. Plus précisément dans des supernovas. Donc des étoiles très massives qui s'effondrent sur elles-mêmes en une fraction de seconde. C'est là que les noyaux d'uranium se forment et ensuite ils sont expulsés dans le milieu interstellaire et ils peuvent ensuite s'agréger autour d'une nouvelle étoile comme la Terre. Donc d'un point de vue géologique, on est dans une situation pire que le pétrole avec l'uranium. On sait que les hydrocarbures se forment à partir de matières organiques qui se sédimentent par un processus qui est très long. Mais la ressource en uranium, on le voit, elle ne peut pas se régénérer naturellement sur Terre.
On a une idée de la quantité d'uranium actuellement disponible ?
Oui, le document qui fait foi sur cette question, c'est le fameux livre rouge, publié tous les 2 ans par l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Alors ce document nous dit que le monde dispose de 8 millions de tonnes de réserves avérées, qu'on sait situées, qui sont en partie exploitées. Et à cela, tu peux ajouter environ 4 millions de tonnes de ressources probables.
Des ressources probables, c'est-à-dire ?
Eh bien, il s'agit de ressources présumées, non découvertes. En fait, si on fait l'hypothèse que l'uranium est relativement bien réparti sur la planète, on se doute qu'il y a encore beaucoup de gisements à explorer. Et il faut savoir, par exemple, que quand le nucléaire a été lancé au siècle dernier, les plus gros gisements d'aujourd'hui, comme ceux du Canada ou de l'Australie, n'étaient pas connus. Mmh. Et puis enfin, il y a les ressources non conventionnelles, c'est-à-dire qu'on peut aussi extraire de l'uranium à partir de roches phosphatées ou de l'eau. Mais ça, on n'y est pas encore. C'est hypothétique et ça serait sûrement très cher.
Et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'uranium ?
Actuellement, il y a à peu près 438 réacteurs nucléaire en fonctionnement dans le monde. On peut ajouter 150 de plus qui sont en construction ou en projet. On a plusieurs centaines de projets à l'étude. Donc on voit bien, le nucléaire est une énergie qui est en plein boom, et à l'allure où on va, certains chercheurs nous disent que on pourrait avoir épuisé ces fameux 8 millions de tonnes d'ici un siècle, et peut-être même bien avant, si, par exemple, les objectifs qui ont été annoncés récemment à la COP28 sont tenus, à savoir tripler la capacité nucléaire mondiale d'ici à 2030.
Ce risque de pénurie d'uranium, parce que c'est de ça qu'on parle, il n'inquiète pas les pouvoirs publics ?
Alors, il y a véritablement deux camps, deux visions sur cette question. Alors, c'est vrai, officiellement, à Bercy, on nous dit « tout va bien, pas de panique, la France est prudente dans son approvisionnement ». On importe depuis plusieurs pays. On a aussi en France un stock stratégique dont le montant est confidentiel. Et puis, quand on parle d'épuisement possible d'uranium, les experts, que ce soit chez Orano ou EDF, préfèrent nous parler de l'évolution des prix, puisque depuis 2019, les cours de l'uranium ont été multipliés par près de 4. Et ça, ça encourage vraiment le redémarrage de certaines mines qui n'étaient plus rentables jusqu'ici. Donc, tout ça donne quelque part une impression d'abondance. Mais encore une fois, pour plusieurs experts, l'avenir est plus incertain. Et en fait, ce qui se passe sur les prix pourrait masquer une réalité géologique un peu plus sombre. Et en plus, la hausse des prix à laquelle nous assistons est aussi une bulle spéculative.
Et donc, est-ce qu'elle peut exploser, cette bulle ?
Alors oui, bien sûr. Comme toute bulle, elle peut exploser. Si les cours baissaient trop, eh bien, il y aurait un risque que l'investissement dans l'exploration, dans l'exploitation, diminue rapidement. Or, actuellement, on estime que l'extraction de l'uranium naturel ne répond qu'à hauteur de 75% des besoins réels des réacteurs nucléaires dans le monde. Donc, nous avons vraiment besoin de ces investissements. Sans eux, la pénurie guette, et sans doute plus vite que prévu.
Le tableau que tu nous dépeins, Sébastien, il est assez inquiétant.
Disons que pendant plusieurs décennies, la question du combustible nucléaire ne crée pas vraiment d'inquiétude. Après Fukushima, plein de pays se détournaient du nucléaire, l'Allemagne, la Belgique. Mais aujourd'hui, on voit bien avec la crise climatique, avec la guerre en Ukraine et toutes ces questions de souveraineté énergétique, eh bien de plus en plus de pays veulent se nucléariser en fait, nucléariser leur mix énergétique.
Mais contrairement à certains de ses voisins, la France n'a jamais arrêté de miser sur le nucléaire. Est-ce que ça ne nous confère pas un avantage ?
C'est vrai, mais attention Charlotte, ce n'est pas parce qu'on a continué à miser sur le nucléaire qu'on a fait les bons choix stratégiques.
Sébastien, quand on parle d'innovation dans le domaine nucléaire en France, ce qui me vient en tête, c'est l'EPR de Flamanville. On en parle régulièrement dans La Loupe. On a même dédié un épisode à ce sujet. En quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un EPR ?
Oui, un EPR, c'est un réacteur à eau pressurisée de troisième génération. Alors, troisième génération, pourquoi ? Parce qu'il a un meilleur rendement que les réacteurs actuels. Il a aussi une meilleure sûreté. Mais dans le fond, le principe de fonctionnement reste le même. Dans une centrale nucléaire de type réacteur à eau pressurisée, on a une production de chaleur, donc qui est créée dans le cœur du réacteur, et cette chaleur crée de la vapeur, et cette vapeur alimente des turbines qui ensuite servent pour la production d'électricité. Alors ces EPR, on a beaucoup misé dessus ces dernières années, tu as raison de le rappeler. Emmanuel Macron veut relancer le nucléaire en se basant sur des réacteurs à eau pressurisée, donc les EPR, mais c'est un choix qui est discuté parmi les spécialistes. Certains auraient voulu qu'on privilégie un autre type de réacteur, les RNR. Donc maintenant, c'est à moi de te poser la question, Charlotte, est-ce que tu saurais faire la différence entre un EPR et un RNR ?
Eh bien oui, figure-toi qu'en préparant notre échange, j'ai réécouté plusieurs épisodes de La Loupe qu'on a fait ensemble. Je me suis mis une archive de côté, ça va nous faire gagner un peu de temps. C'est l'extrait d'un podcast qui date de juin dernier.
Pour que tu comprennes, j'ai préparé un tableau comparatif. Alors, regarde à gauche, tu as la technologie actuelle, donc celle des réacteurs à eau pressurisée. Donc, il y a tout un tas de problèmes avec cette technologie. Par exemple, nous n'utilisons qu'une fraction infime de l'uranium naturel. En plus, il faut l'enrichir. Mmh. Tout ça génère des quantités importantes de déchets qu'il faut gérer.
Ok, et à droite de ton tableau, il y a donc les fameux RNR.
Oui, avec tous leurs avantages. Donc, les RNR fonctionnent en fait en puisant dans nos stocks de déchets, donc le plutonium ou l'uranium appauvri.
Sébastien, en quoi ces RNR pourraient nous être utiles ?
Ce qu'il est important de retenir, surtout, c'est que les RNR fonctionnent avec nos déchets nucléaires. Et ces déchets, on en a quand même un paquet sur notre territoire. Selon certains experts, on aurait de quoi alimenter la France en électricité pendant 5000 ans, par exemple. Et en plus, les RNR, contrairement aux EPR, produisent peu de déchets à vie longue, donc ceux qui sont les plus problématiques. Donc finalement, c'est du nucléaire durable, si tu veux.
Si cette solution est si avantageuse, Sébastien, pourquoi le gouvernement a-t-il fait le pari des EPR plutôt que des RNR ?
Il y a plusieurs raisons à ça. La principale est sans doute économique. Un RNR coûte plus cher à produire qu'un réacteur à eau pressurisée. Or, on se demande déjà comment on va faire pour trouver les fonds pour nos EPR. Alors, je fais un petit rappel. Il va falloir trouver 50 milliards d'euros pour construire 6 nouveaux EPR et 50 milliards d'euros supplémentaires pour augmenter la durée de vie du parc existant. Ça, c'est beaucoup d'argent. L'EPR, pourtant, apparaît comme la solution la plus économique. Mais c'est une vision court-termiste. Et c'est dommage parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Est-ce que tu as déjà entendu parler des réacteurs Phoenix et Super Phoenix ?
Non, ça ne me dit rien.
Alors, il s'agit de prototypes de RNR qui ont été développés en France dans les années 70. Donc, Phoenix, tout d'abord, un démonstrateur industriel de bonne taille, connecté au réseau électrique en 1973. Il a fonctionné pendant 35 ans et son arrêt définitif a été prononcé en 2009. Mais il n'y a pas eu que lui, il y a eu Super Phoenix. Donc là, en 1976, la France démarre la construction donc, du successeur de Phoenix, un RNR de grande puissance cette fois-ci. Bon, en fait, rien ne va se passer comme prévu sur la construction de Super Phoenix. L'exploitation sera interrompue de très nombreuses fois pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons politique, sociale, parce qu'il y avait beaucoup d'opposants au projet. Et puis finalement, la décision d'arrêter le réacteur sera prise en 1997. Et puis 20 ans plus tard, nouvelle déception pour la filière RNR en France avec l'arrêt du projet Astrid.
Ah, ça Astrid, c'est un nom qui me parle. Laisse-moi ressortir un autre extrait, le voici.
Astrid est un acronyme, c'est le petit nom d'un prototype de réacteur nucléaire de quatrième génération. Et Astrid aujourd'hui, c'est surtout un synonyme d'occasion ratée. Au printemps 2018, la France était le pays le plus avancé au monde sur les RNR. Et puis tout s'est arrêté d'un coup. Tout s'est joué lors d'une réunion qui a eu lieu en mars 2018. C'était un comité de suivi du projet. Et là, ben, tout d'un coup, Matignon a stoppé net le financement.
Tu peux nous rappeler, Sébastien, les raisons de l'arrêt du projet Astrid ?
Ce sont toujours les mêmes. Alors, des raisons économiques, bien sûr, des oppositions au nucléaire, surtout si on dit que le nucléaire devient durable, et puis sans doute un manque de vision à long terme. Pourquoi changer la technologie si on considère qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement sur l'uranium ? Ça vaudrait pourtant le coup, tant sur le plan de la souveraineté énergétique que sur un plan écologique.
La France a donc cédé l'avance qu'elle avait sur le développement de ces fameux RNR, sans extraction d'uranium donc. Et vous allez l'entendre, d'autres États sont bien déterminés à prendre le leadership dans ce secteur.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le 13 avril dernier, l'Express a publié une tribune de la physicienne Claire Kerboul qui prend la défense des RNR. Elle pose une question qui m'a interpellée. Je vais te la lire, Sébastien. À quoi peut rimer l'aveuglement de dirigeants qui retardent s'inédier le démarrage des RNR en France quand la Chine, l'Inde, la Russie, le Canada et le Japon poussent les feux ? Sébastien, tous ces pays qui investissent dans les RNR, où en sont-ils exactement ?
Bien, si on s'en réfère aux spécialistes, on voit que la Russie, par exemple, est fermement engagée aujourd'hui dans le développement des RNR à une échelle industrielle. Et c'est vrai que d'autres pays s'y intéressent, l'Inde, par exemple, et puis bien sûr la Chine, qui a démarré en 2011 un réacteur expérimental, qui a été construit d'ailleurs avec l'aide de la Russie. Et par ailleurs, la Chine construit un prototype industriel de plus grande puissance, et le chantier a débuté en 2017.
Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, en France, de relancer la filière ?
Alors, on a déjà parlé des coûts économiques, des opposants au nucléaire, du manque de vision, ça fait déjà beaucoup, mais on pourrait aussi ajouter le coût politique. Pour un gouvernement, revenir en arrière, passer au RNR, ça voudrait dire, en fait, avouer qu'on a commis une erreur, qu'il faut tout changer. Et on sait très bien que nos politiques n'aiment pas trop admettre leurs fautes, et ils n'aiment pas trop le risque non plus. Or, dès qu'on parle de nucléaire, on pense tout de suite aux galères liées à la construction des réacteurs, et des EPR notamment, comme celui de Flamanville.
À l'origine, effectivement, cet EPR, il devait coûter que 3,3 milliards d'euros. Bah finalement, vous voyez, on est à 13,2 milliards d'euros, donc on a fait x4. Et puis effectivement, le calendrier aussi, il a dérapé, parce que quand on a lancé le projet en 2004, on se disait, bon, bah en 2012, dans 8 ans, ça sera terminé. Bah vous voyez, là, 2004-2024, finalement, il aura fallu 20 ans.
Officiellement, on nous certifie que la France viendra un jour au RNR. Mais personne, en fait, ne donne d'échéance précise. On parle d'un démonstrateur qui pourrait arriver vers 2050. Mais ce délai est-il raisonnable? On estime que pour construire un RNR, il faudrait au moins 20 ans. Avant cela, il faudrait faire fonctionner un démonstrateur pendant 10 ans pour recueillir des données. Donc si tu fais le calcul, tout ça prend une bonne quarantaine d'années. Mmh. Et en fait, pour basculer un pays véritablement sur les RNR, il faudrait quelque chose comme 80 années, nous disent les experts.
Ça veut dire qu'en attendant, on est obligé de faire fonctionner des réacteurs qui dépendent de l'extraction de l'uranium.
Oui, et sur ce terrain-là, on a des pays qui avancent déjà leurs pions. La Chine, par exemple, on sait qu'elle a récemment racheté des mines en Namibie. Elle investit également au Kazakhstan. Et pour certains, le fait de voir la Chine se préoccuper à ce point des ressources d'uranium n'augure rien de bon. En fait, ce qui risque de se produire, ce sont des tensions sur l'approvisionnement, puisque au même moment, en fait, l'Europe, les États-Unis, la Chine vont avoir besoin d'uranium. Donc c'est vrai, la solution pourrait venir des RNR, mais on voit bien la transition vers cette solution est loin d'être amorcée.
Pour la France, il est donc urgent de relancer un projet de RNR pour assurer nos besoins énergétiques à long terme et donc moins dépendre de l'extraction d'uranium. L'analyse était fournie par Sébastien Julien, rédacteur en chef adjoint de la rubrique Climat de l'Express. Merci Sébastien.
Merci à toi.
Chers auditeurs, pour lire toutes les enquêtes et les décryptages de Sébastien et de ses collègues, ça se passe sur l'express.fr. Si vous n'avez pas encore souscrit d'abonnement numérique, sachez que celui-ci ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment. Et pour ne manquer aucun des prochains podcasts de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.